Philippiens 2, verset 19, jusqu'à Philippiens 3, première partie du verset 1. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même par les nouvelles que j'aurai de vous. Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour se soucier sincèrement de votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux du Christ Jésus. Vous savez qu'il a fait ses preuves et que, comme un enfant auprès de son Père, il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. J'espère donc vous l'envoyer dès que je verrai clair dans ma situation. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que je viendrai bientôt moi-même. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon compagnon d'œuvre et de combat que vous m'avez envoyé et à qui vous avez donné de quoi pourvoir à mes besoins. Il désirait ardemment vous voir tous. Il était fort en peine de ce que vous ayez appris sa maladie. Il était malade, en effet, tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec beaucoup d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le dans le Seigneur, avec une joie entière, et honorez de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été prêt de mourir, ayant exposé sa vie, afin de suppléer à l'absence de votre service pour moi. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Peut-être que certains ont déjà réfléchi à la communication, suivi des cours de communication. Et dans la communication, nous avons un message, un émetteur qui l'interprète et qui le transmet, au récepteur qui le reçoit et qui l'interprète. OK ? Eh bien, face à la parole de Dieu ce matin, qui est le message, eh bien, nous comptons sur l'œuvre du Saint-Esprit pour toutes les étapes de communication, autant pour ma bouche que pour nos oreilles. J'aimerais commencer par une illustration qui nous aidera à comprendre notre attitude face à une lettre que l'on recevrait. Un jour, Max reçoit deux lettres manuscrites qui lui sont personnellement adressées. Et dans chacune des lettres d'auteurs différents, il retrouve une même phrase. Dans les deux lettres, il y a cette phrase qui dit ceci: « Mon ami, je me réjouis de te revoir. » La première lettre est écrite par Lily, sa fiancée. Après lui avoir parlé du bonheur, du cheminement qu'ils font ensemble, lui avoir souligné toutes les qualités qu'elle aime chez lui, et encouragé au progrès pour les quelques petits défauts, elle finit sa lettre par un magnifique poème et termine en écrivant: « Mon ami, je me réjouis de te revoir. » Et cette phrase trotte dans la pensée de Max, qui a le cœur, qui a des cœurs plein la tête, et se réjouit également de voir sa Lily. La deuxième lettre se termine par la même phrase. Mais c'est Royou qui lui écrit une lettre remplie de sarcasme. En résumé, il lui dit qu'il lui doit de l'argent, que c'est un bon à rien et qu'il a intérêt à lui donner l'argent la prochaine fois qu'il se voit. Il termine en écrivant: « Mon ami, je me réjouis de te revoir. » Une petite phrase qui déclenche l'irritation, l'agacement ou la crainte. Max, en fait, ne se réjouit pas de revoir Royou. Une même phrase, mais un sens bien différent. Eh bien, le sens est donné par le but de la lettre, par son contenu, ses pensées principales et la relation avec l'auteur. Et nous continuons aujourd'hui à étudier la lettre que Paul, inspiré de Dieu, a envoyée aux Philippiens. Et pour bien comprendre la lettre, il est important de comprendre le but, le contenu et l'auteur. Pour bien comprendre cette lettre, il est important de comprendre le but, le contenu et l'auteur. Or, le but, pourquoi la lettre aux Philippiens a-t-elle été écrite? N'allons pas chercher trop loin. C'est très simple. C'est que l'apôtre Paul remercie l'Église pour leur don et enseigne la vraie attitude de don. Voilà le but de la lettre. Il envoie pour remercier pour le don et il enseigne la vraie attitude du don. Et quelles sont donc les idées principales qu'il développe? Eh bien, Paul commence par présenter l'œuvre de Christ, le don par excellence. Ensuite, il encourage à suivre l'exemple de Christ en ayant la même pensée que lui. C'est l'exemple par excellence pour savoir comment donner. Il continue par présenter des exemples de vie pour Christ. Une façon de vivre le don, chacun à notre échelle. C'est ce que nous verrons d'ailleurs aujourd'hui. Ensuite, Paul avertira de s'attacher aux œuvres extérieures, mais de rester près de Christ de manière persévérante. C'est la motivation du don. Et enfin, dans sa manière de remercier les Philippiens pour le don qu'il a reçu de leur part, il enseigne comment réagir face au don. Et en fait, le verset 17, du chapitre 4, est en fait un peu la clé de compréhension du but de Paul pour cette lettre, où il dit « Ce n'est pas que je cherche le don. Ce que je cherche, c'est le fruit abondant porté à votre compte. » Donc, connaissant le but, les idées principales, venons-en à l'auteur. C'est Paul qui écrit aux Philippiens au 1er siècle après Jésus-Christ, et l'auteur est celui qui l'a inspiré, Dieu, le Saint-Esprit. Et en fait, notre relation avec l'auteur va influencer notre manière de recevoir une lettre écrite de sa part. Si nous sommes réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ, nous sommes conscients de l'amour immense que notre Dieu nous porte. Nous recevrons donc pas la lettre comme une menace. Mon ami, je me réjouis de te revoir. Non, nous recevrons comme une lettre d'amour. Mon ami, je me réjouis de te revoir. Voyez, c'est tellement important. Quelle est notre relation face à Dieu? Vous savez que la lettre qu'on lit aujourd'hui dans Philippiens, elle vient de Dieu. Et si c'est un Dieu qui nous aime, tout ce qui est écrit est pour notre bien, est bon pour nous, vient de son amour. Et dans la portion de lettres que nous voyons aujourd'hui, Paul nous donne des exemples de vie pour nous montrer que le don et la recherche du bien des autres est possible. Hein, on a vu la dernière fois, ayez la pensée qui était en Jésus-Christ, hein, cette notion de se donner, de voir l'intérêt des autres avant le nôtre. Puis quelque part on se dit, mais attends, c'est Christ ça. Eh bien l'apôtre Paul donne ici deux exemples avec Timothée et Epaphrodite pour montrer que c'est quelque chose de possible. Et il l'illustre justement avec des personnes que les Philippiens connaissaient. Timothée était là lors de la fondation de l'Église. Quand Paul a visité l'Église, il était là aussi. Et Epaphrodite, eh bien, c'est quelqu'un qui est envoyé de l'Église de Philippe. Donc c'est quelqu'un du sérail. Le titre de ses prédications est donc « Deux exemples de vie pour Christ ». Dans un premier temps, nous réfléchirons à notre besoin de modèle et qu'est-ce que cela implique. Ensuite, nous nous pencherons sur l'exemple de Timothée, que j'ai intitulé « La fidélité qui encourage ». Et comme troisième point, nous rencontrerons Epaphrodite pour parler du service qui réjouit. Commençons par cette notion du besoin de modèle. Paul nous parle de deux personnes bien différentes qui avaient pourtant le même but. En fait, nous avons besoin d'exemples, de différents exemples qui suivent le divin modèle Jésus-Christ, dans différents domaines où nous pouvons nous identifier. Celui qui sait jouer d'un instrument, par exemple, a besoin de voir quelqu'un consacré à Dieu qui joue d'un instrument de façon à glorifier celui qui a donné le don, pour l'aider à savoir, mais comment est-ce que je pourrais faire? Celui qui aime accueillir, celui qui aime organiser, celui qui aime se battre, donc dans le bon sens, celui qui aime la poésie, celui qui aime la science, celui qui aime les soins, enfin, vous pouvez mettre chacun ce que vous aimez ou ce que vous savez faire. Chacun a besoin de petits modèles dans ces différents domaines pour nous aider à ressembler au grand modèle qui est Jésus-Christ. Nous avons des modèles. Les modèles font partie de notre vie, que nous le voulions ou non. Nous les suivons consciemment ou inconsciemment, que ce soit des modèles à imiter ou des contre-modèles à éviter. Nous sommes tous des personnes sous influence. Désolé pour ceux qui ne le pensent pas, mais nous sommes tous des personnes sous influence. Personne ne peut dire qu'il a tout fait dans sa vie sans s'inspirer de qui que ce soit. Personne ne peut dire ça. Commençons par le premier exemple. Pour apprendre à parler, vous avez imité ceux qui parlaient autour de vous. Pour marcher, pour accueillir, pour pratiquer un sport. D'ailleurs, dans le sport, on va même visionner des vidéos une dizaine de fois de quelqu'un d'autre pour essayer de le faire soi-même. Par exemple, pour répondre à la moquerie. Comment répondre à la moquerie? Ben, en fait, on a vu d'autres comment ils le faisaient, puis on imite, hein, c'est comme ça que ça se passe. Pour présenter sa foi, la valeur que l'on met dans la vie d'église et tant d'autres choses. Et la façon d'agir des parents influence très fortement les enfants. Alors pour ceux qui ont des enfants, ils le voient, mais on a tous, nous, été enfants face à nos parents. Et par exemple, si l'Église, qui est le corps de Christ, est une priorité vécue, elle le sera plus facilement pour les enfants. Le fait que nous nous identifions, que nous sommes influencés, que nous nous inspirons, fait partie de la nature que le Créateur nous a donnée. Avant la chute, ce n'est pas un produit de la chute. Ça fait partie de la nature que Dieu a donnée. Et c'est vrai que, je pense pour vous, comme pour moi, on n'oubliera pas les modèles que Dieu nous a donnés. Je ne pourrai jamais oublier le modèle de mes parents, d'un enseignant de catéchisme, de ceux qui ont pris du temps pour me parler, me former, de personnages bibliques tels que Joseph, David, Daniel et tant d'autres, de ceux que je découvre dans des biographies comme George Muller, Charles Spurgeon, C.S. Lewis et d'autres encore qui m'ont marqué, ou d'autres encore que j'apprends à connaître par leur écrit ou par leur prédication. Quelques exemples comme John Piper, Paul David Tripp, Kevin DeYoung, Tim Keller, pour n'en nommer que quelques-uns qui m'influencent actuellement. Aucune de ces personnes n'est parfaite. Et en fait, je ne dois pas m'attendre à ce qu'ils vivent sans faute. Seul Christ est le modèle parfait. Mais dans sa grâce, Dieu nous donne des exemples et nous encourage non pas à imiter leurs erreurs, mais leur foi. Comme il est dit dans Hébreux 13, 7. Peut-être que vous connaissez ce texte, vous l'avez sûrement déjà entendu, où il a dit « Souvenez-vous de vos conducteurs, ceux qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. » Imitez leur foi. Alors, sachant que nous suivons de toute façon des modèles, nous pouvons alors conclure qu'il est préférable de choisir ces modèles. On suit de toute façon des modèles. Donc c'est mieux de choisir ces modèles et non pas de subir passivement ceux qui nous sont imposés par la société. Alors comment choisir ces modèles? Je ne vais pas pouvoir prendre beaucoup de temps sur ce sujet. Ça vaudrait la peine, mais je vais faire ça en une seule phrase pour qu'on ait quelque chose qui soit simple et court. Un modèle doit nous aider à développer les dons que Dieu nous a donnés. Un modèle doit nous aider à développer les dons que Dieu nous a donnés, ça c'est la première partie. Et deuxièmement, il ne doit pas nous détourner du divin modèle qui est Jésus-Christ. Donc, on peut avoir des modèles qui ne sont pas forcément chrétiens pour des sujets ou des éléments précis de ce qu'ils font dans leur vie, pour des éléments professionnels ou autres. Hein. Par contre, la deuxième partie, elle est importante. Ils ne doivent pas nous détourner du divin modèle. C'est une notion de développer. Donc, modèle doit nous aider à développer le don que Dieu nous a donné. Et il ne doit pas nous détourner du divin modèle qu'est Jésus-Christ. Voilà les deux éléments que je nous donne qui peuvent nous aider à choisir. Est-ce que c'est un bon modèle ou pas que j'ai? Mais dans ce sujet des modèles, ce n'est pas fini. Non seulement nous avons des modèles, mais nous sommes des modèles. Nous sommes des modèles pour tous ceux qui nous entourent. Que vous le veuillez ou non. Voici ce que Paul dira aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 1, versets 6 à 8. Il dit ceci, donc il y a l'église de Thessalonique. Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Achaïe, car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, à tel point que nous n'avons pas besoin d'en parler. Ah, ça, c'est la classe! Franchement, ça sera absolument génial! L'église réformée baptiste de Neuchâtel est un modèle dans tout Neuchâtel, dans toute la Suisse romande. Il n'y a même pas besoin d'en parler! C'est clair! Ah non, pas parce que l'église réformée baptiste de Neuchâtel est fantastique, parce qu'elle suit le modèle de Jésus-Christ. Et tout le monde le sait. Et veut l'imiter. Vous n'avez pas envie que ça soit comme ça? Franchement. C'est ça qu'on désire. Parce que quand les gens ont ça en tête, ils veulent suivre le modèle qui nous motive, Jésus-Christ, comme les Thessaloniciens ici, très clairement. Soyons donc des modèles avec l'aide de Dieu et par la grâce de Dieu. Non pas pour attirer les regards sur nous, j'insiste, hein, c'est sur Christ qu'on veut attirer les regards. Être modèle ne me semble donc pas être le but principal, mais en fait la conséquence d'une vie harmonieuse dans les principes de Dieu. Et quand quelqu'un vient vous dire un jour, écoute, ce que tu as fait ou ce que tu as vécu m'a aidé à grandir avec Dieu. Franchement, ça ne vous encouragerait pas? C'est juste énorme. Ça nous aide, ça nous stimule. Hein? Ah, vous pouvez même le dire autour de vous. Si quelqu'un vous a encouragé, n'hésitez pas à le dire. Par la grâce de Dieu, j'ai été encouragé par ce que tu as fait là, par ce que tu as dit là, hein, ou tu as été un modèle pour moi dans ce domaine. C'est des encouragements et c'est une preuve de l'œuvre de Dieu en nous. Dans les Philippiens, Paul nous parle de deux modèles bien différents avec Timothée et Epaphrodite. Le premier étant un fidèle collaborateur de longue date de Paul, endossant des responsabilités spirituelles et enseignant la parole. Le second est un membre de l'église de Philippe, envoyé pour pouvoir aux besoins de Paul, un homme qui sert de manière pratique. Et c'est cette même diversité que nous trouvons dans 1 Pierre 4, 10 et 11, où chacun est encouragé à mettre au service de Dieu le don qu'il a reçu. 1 Pierre 4, bah regardez avec moi 1 Pierre 4, vous gardez le doigt dans Philippiens 2, et on va voir dans 1 Pierre 4, verset 10. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon attendant de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu l'accorde, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Mettre nos dons au service de Dieu va faire de nous des exemples utiles pour Dieu. Pas en dire, mais comment est-ce que je peux être un modèle? Non. Comment est-ce que je peux mettre au service de Dieu les dons qu'il m'a donnés? C'est ainsi que nous deviendrons un modèle. Donc à la fin de ce premier point où on a un peu réfléchi sur les modèles, deux questions nous sont posées, bien clairement. Quel modèle suivons-nous? Parce que nous en suivons de toute façon. Quel modèle suivons-nous? Vous pourriez faire une liste, hein, à la maison, lister, voilà. Tous les modèles que vous suivez ou que vous avez suivis, pourquoi pas. Et remercier Dieu et parfois peut-être remettre en question certaines choses. Et deuxième question, quel modèle sommes-nous? Puisque nous le sommes de toute façon. Prenons maintenant le temps de voir les deux modèles présentés par Paul qui illustrent son propos, qui disait d'avoir la même pensée de Jésus-Christ et de ne pas chercher ses propres intérêts. Il vient de dire ça, il vient de parler de Christ et hop, il nous parle de deux modèles, Timothée et Epaphrodite. On commencera par le premier, les versets 19 à 24, et on va relire ces versets dans Philippiens 2. Donc si vous voulez bien revenir dans Philippiens 2, le verset 19 jusqu'au verset 24. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même par les nouvelles que j'aurai de vous. Donc là, l'apôtre Paul parle de Timothée. Ensuite, il dit « car ». Petite conjonction qui va en fait montrer que ce qu'il va dire maintenant dans les versets 20 et 21 ne concerne pas Timothée. Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour se souvenir sincèrement de votre situation. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Christ. Et verset 22, on revient à Timothée et dit justement, mais vous savez qu'il a fait ses preuves et que comme un enfant auprès de son père, il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. J'espère donc vous l'envoyer dès que je verrai clair dans ma situation. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que je viendrai bientôt moi-même. Donc les versets 20-21 que nous avons ici, nous pouvons les prendre positivement pour Timothée. Hein? Inversement. Timothée partage les sentiments de Paul. Il se soucie sincèrement de la situation de Philippe. Ils ont la même pensée. Ah tiens, c'est quelque chose qui revient, on a déjà entendu dans Philippiens ceci. Pour que Paul et Timothée aient la même pensée, eh bien, il faut qu'ils aient la même référence, la même source, le même but, le même modèle, à savoir Jésus-Christ. Paul montre ici une application directe à ce qu'il disait juste avant dans la lettre, « Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ ». Si deux personnes ont la pensée qui était en Jésus-Christ, elles sont unies et partagent leurs sentiments et se soucient des bonnes priorités. Et c'est ce qu'on vit, Hier, quand on avait ce temps de jeûne et prière, quand on était ensemble et qu'on cherchait la face de Dieu, on avait les mêmes soucis que nous apportions ensemble à Dieu. Avoir la même pensée que Jésus-Christ, c'est au lieu de considérer ses propres intérêts, considérer aussi ceux des autres. C'est l'inverse du verset 21, hein, de ce que faisait ce qui est autour de Paul. Il a dit, hein, tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Christ. Oh, ça ne voulait pas dire qu'il ne participait pas au culte du dimanche matin ou ne participait pas financièrement à l'église. Mais cela voulait dire qu'il le faisait pour eux-mêmes. On peut venir au culte pour soi-même. On peut soutenir l'église pour soi-même. Et ne pas chercher les intérêts du Christ. C'est plutôt Jésus qui me fait du bien. Je vais chercher en fait vers lui ce qui me manque. Est-ce que c'est vraiment ça, chercher les intérêts de Christ? Est-ce que nous cherchons les intérêts de Christ? Alors avant de chercher ces intérêts, nous devons les connaître, nous entraîner à les vivre. Je donne une petite illustration que j'ai inventée. Alors on verra si ça illustre vraiment la chose. Alors on va essayer. Hein. Donc, c'est un maître nageur. Un maître nageur qui, en fait, donne des cours de natation pour éviter la noyade. Il cherche des clients et il assure qu'après le cours, il sera possible de nager. Ça va jusque-là, je crois que ce n'est pas trop dur à comprendre. Un homme ayant entendu parler de ce maître nageur, en admiration pour son travail, le prend à cœur et désire l'aider à avoir le plus de clients possible. Il décide de faire une action d'éclat, de faire de la pub, il écrit aux journaux, à la TV, qui l'invite de venir pour le voir faire la traversée du lac, pour montrer ce qu'est nager selon le maître nageur. Le problème, c'est qu'il ne sait pas nager. Et qu'il ne va pas trouver le maître nageur pour apprendre. Que va-t-il donc se passer? Quand toutes les télévisions seront là et les journalistes, il coulera. Il coulera lors de son action d'éclat. Et au lieu de faire de la pub pour le maître nageur qu'il désirait aider, il le couvrira de ridicule. Voilà comment on apprend à nager. Et pourtant, le maître nageur n'est pas responsable de l'échec de cet homme. Il n'est jamais venu apprendre à nager. Avant de vouloir chercher les intérêts de Christ, il faut se mettre à son école, à son écoute, avoir la même pensée que lui, la vivre. Et ainsi, nous chercherons les intérêts de Christ. Pas avant. On n'est pas à l'extérieur. En train d'essayer par notre petite idée de... Non, avant de vouloir chercher les intérêts de Christ, il faut se mettre à son école, l'écouter, avoir la même pensée que lui, la vivre. Et ainsi, nous chercherons les intérêts de Christ. Et c'est ce que Timothée a fait. Il a fait ses preuves. L'attitude de fidélité va se traduire dans la pratique, si elle existe vraiment. Timothée manifeste la fidélité par son attitude. Il manifeste la fidélité dans la pratique. Et Timothée a fait ses preuves, les Philippiens le savent bien. Timothée était là lors de la fondation de l'Église. Et quelques années plus tard, lors de la visite avec l'apôtre Paul. Et encore plus tard avec Paul ici, lorsqu'il écrit, eh bien, il se soucie des Philippiens. Timothée n'est pas un engagé occasionnel. Il est fidèle et persévérant, il se préoccupe de l'Église. Ce n'est pas un engagé occasionnel. Il est fidèle, persévérant, il se préoccupe de cette Église. Il s'est consacré, l'apôtre Paul le dit ici, hein, verset 22, il s'est consacré au service de l'Évangile. Et il a travaillé avec Paul comme un enfant apprend de son père. Il l'a donc imité, il lui a demandé des conseils, l'a accompagné, lui a obéi. Sa fidélité fait de lui un homme fiable. Paul sait qu'il peut compter sur Timothée. Il sait qu'il ne se défiera pas en cherchant ses propres intérêts. Il peut donc l'envoyer en toute confiance à l'église de Philippe. Paul nous donne donc ici un exemple de fidélité d'un homme qui avait la charge d'enseigner. Il continue en donnant un deuxième exemple de quelqu'un qui est doté du don du service. C'est Épaphrodite. Épaphrodite, le service qui réjouit. C'est notre troisième point. Nous allons relire les versets 25 à 3:1. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon compagnon d'œuvre et de combat, que vous m'avez envoyé et à qui vous avez donné de quoi pourvoir à mes besoins. Il désirait ardemment vous voir tous. Il était fort en peine de ce que vous ayez appris sa maladie. Il était malade, en effet, tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec beaucoup d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le dans le Seigneur avec une joie entière, honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il était prêt de mourir, ayant exposé sa vie afin de suppléer à l'absence de votre service pour moi. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. J'aime bien la signification du nom d'Épaphrodite. Épaphrodite veut dire aimable, charmant. Si on va même regarder un peu plus loin, Épaphrodite vient de dévouer à Aphrodite. Bon, ça c'est peut-être un peu moins drôle parce que c'est une idole. Mais heureusement, Épaphrodite s'est détourné d'Aphrodite pour se dévouer entièrement à Dieu. Et ce service, en fait, il le fait en collaboration avec Paul. Ça, c'est un aspect qu'on va voir ensemble. Et par procuration pour l'église de Philippe. C'est le deuxième aspect qu'on va voir ensemble. Le service en collaboration, tout d'abord. Paul souligne au verset 25, en parlant d'Épaphrodite, qu'il est son frère. Mon frère. On ne voit pas souvent l'apôtre Paul qui dit à chacun « mon frère », comme ça, au milieu d'un texte. Mon frère, il le souligne. Ils font partie de la même famille. Ils font au service du même maître. Et ce terme « frère » placé ici dénote aussi une complicité, une amitié construite sur un engagement commun. Ce terme « frère » ici dénote une complicité, une amitié construite sur un engagement commun. Lorsque nous faisons des choses ensemble, nous apprenons à nous connaître. Nous nourrissons notre amitié, notre unité est renforcée. Vous voulez qu'une église soit désunie ? Eh bien, ne faites jamais rien ensemble. Et l'église sera désunie. Vous voulez une église unie ? Faites des choses ensemble. Paul appelle Épaphrodite son compagnon d'œuvre. Alors, nous ne savons pas si Épaphrodite enseignait aussi, mais ce qui nous est dit, c'est qu'il s'est mis au service de Paul et a apporté de quoi pourvoir à ses besoins. Il est appelé compagnon d'œuvre. On ne sait pas s'il enseignait aussi. Ça, ce n'est pas dit dans le texte. Mais ce qui est dit dans le texte, c'est qu'il s'est mis au service de Paul et a apporté de quoi pourvoir à ses besoins. Il semble donc qu'Épaphrodite s'occupait plutôt d'aspects pratiques. Peut-être s'occupait-il de la nourriture, des vêtements, de la propreté, de l'accueil, du papier, de l'encre, etc. Et cela soulageait Paul qui pouvait se concentrer au service de l'enseignement. Et pourtant, Paul ne dit pas simplement « c'était mon aide », c'est mon compagnon d'œuvre, on est dans la même œuvre, l'un et l'autre. Ainsi, Épaphrodite participe à l'œuvre de Christ et doit être estimé au même titre que Paul. Troisième élément, Paul appelle encore Épaphrodite son compagnon de combat. Il est engagé comme un soldat sur le front avec Paul. Quel est le lieu de combat le plus important, souvent oublié? Il y en a qui aiment un peu les techniques de combat, tout ça, alors il faut qu'on sache quel est le lieu, le point le plus important. Eh bien, le combat de la prière est souvent oublié. Alors que tout se joue non pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est Éphésiens 6 qui nous dit cela. Le combat se vit premièrement dans la prière. Et voici ce qui s'est passé dans une petite ville du nord de Californie. Des femmes chrétiennes fortement impliquées dans une section locale du mouvement droit à la vie se souciaient aussi notamment de la morale dans la cité. Et lorsqu'elles ont appris que, dans peu de temps, un bar avait l'intention d'introduire des séances de striptease pour distraire le public, elles étaient vraiment perturbées. Elles se sont dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas laisser faire ça. Et donc la première réaction, c'était d'assiéger quelque part la mairie d'appel téléphonique. Mais voilà qu'une femme se souvint d'un plan qui avait pour signe ou pour nom prière et action. Et la première étape de ce plan consistait à prendre contact avec les églises locales en leur demandant tout simplement de prier pour que la volonté de Dieu se fasse. De prier. Et un grand nombre d'assemblées étaient ainsi sensibilisées au problème. Il est donc aussi recommandé, dans ce plan, de prier régulièrement pour les autorités locales. qui doivent prendre ces décisions. Les femmes donc ont pris contact avec autant d'églises qu'elles le purent et elles-mêmes se retrouvèrent ensemble pour prier. Alors, ne sachant pas qu'est-ce qui allait suivre, hein, elles se sont préparées, elles se sont dit, mais si on doit commencer à donner des arguments, si on doit s'expliquer devant la commission, le conseil municipal, à propos de ce nouveau règlement, eh bien, nous voulons aussi pouvoir répondre. Mais tout cela, en fait, ne fut pas utile. Elles n'ont jamais dû passer à la phase action du plan. À leur connaissance, personne n'adressa de plainte à la direction du bar en question. Mais sans tambour ni trompette, le propriétaire vendit subitement son établissement et quitta la ville. Et l'acheteur, qui reprit l'établissement, n'eut aucune envie de donner suite au projet d'amusement. Cette victoire paisible, mais importante, fut le fruit de la prière seule. C'était le fruit de la prière. Comme Moïse, ces femmes s'étaient tenues à la brèche. Dans son livre intitulé « Pourquoi prier si Dieu sait déjà ?», Douglas Kelly dit ceci. « Si nous pouvons intercéder ainsi, c'est évidemment uniquement parce que Christ est déjà en train d'intercéder pour nous. Il est sur le trône, il intercède pour nous. Lorsque nous intercédons, nous reprenons à notre compte son intercession. Quand nous montons à la brèche en faveur d'autrui, nous rencontrons le Seigneur invisible mais présent, si bien que nous ne sommes pas seuls à intercéder, nous le faisons unis à lui. » C'est ça un combattant. Combien de fois Épaphrodite n'a-t-il pas dû être à la brèche avec Paul pour combattre dans la prière? Épaphrodite est au service de Dieu en collaborant. Il ne le fait pas seul, il ne le fait pas pour lui-même. Et un dernier aspect que j'aimerais souligner à propos de l'aide pratique d'Épaphrodite, c'est qu'il est envoyé par l'Église. C'est l'Église qui l'a envoyé. C'est un service par procuration. En fait, il accomplit un service à la place d'autres personnes. Est-ce que vous avez déjà été appelé à accomplir un service par procuration? Ou bien même un service par procuration de l'Église? Ah, vous dites peut-être, je n'ai pas été envoyé par l'Église comme missionnaire. Et pourtant, celui qui enseigne à l'école du dimanche, celui qui s'occupe de la sono, celui qui est à la garderie, celle qui s'occupe de la rencontre de dames, celui qui est au stand, celui qui amène les fleurs, tous le font par procuration pour l'Église. C'est l'Église elle-même qui est engagée dans ces services. La personne ne le fait pas pour elle-même. Épaphrodite l'a bien compris. Il était l'ambassadeur de l'Église au service de Dieu auprès de Paul. Quand quelqu'un amène des fleurs ici, il est l'ambassadeur de l'Église pour faire ce travail. Vous imaginez, c'est vraiment ça. Paul dit ailleurs au verset 30 que Épaphrodite agissait même comme un suppléant. Hein, les membres de l'Église ne pouvaient pas tous être vers l'apôtre Paul, évidemment. Or, Épaphrodite agissait en leur nom, à leur place. Et il l'a fait en se donnant tellement que sa vie a été exposée d'ailleurs. Est-ce que vous avez déjà vu une nichée d'hirondelles? Bon, c'est vrai que là, on est plutôt à l'approche de l'hiver, ça se voit plutôt au printemps. Mais où j'habitais, au Jura, là, on avait souvent des hirondelles qui venaient nicher. Et je trouvais sympa de voir que, bon, il y avait la couvée, là, on ne voyait pas beaucoup, mais on voyait qu'ils étaient dedans, là, qui couvaient. Mais quand il y avait l'éclosion et que le petit oisillon était là, non seulement il s'était occupé de l'œuf quand il le couvait, mais quand l'oisillon était là, il y avait un aller-retour en fait, des parents, là, ça allait assez rapidement. Puis chaque fois qu'ils arrivaient, on entendait « enfin, ils voulaient prendre la nourriture. Hein? En fait, les parents hirondelles ne pondent pas seulement les œufs, ils prennent aussi soin de leurs petits. Il en est autrement d'un autre oiseau. Et là, je vais laisser la Bible elle-même nous en parler dans Job 39, qui nous dit ceci. « L'autruche abandonne ses œufs à la terre. » Elle les laisse chauffer dans la poussière. Elle oublie qu'un pied peut l'écraser, qu'un animal de la campagne peut les fouler. Elle est dure avec ses petits, comme si ils n'étaient pas à elle. Elle n'a pas peur d'avoir eu de la peine pour rien, car Dieu l'a privée de sagesse. Il ne lui a pas donné d'intelligence en partage. Un don d'autruche, c'est ce que j'appelle donner et abandonner. Ça, c'est un don d'autruche. Donner et abandonner. Épaphrodite n'est pas une autruche. Le don qu'il s'est donné la peine d'apporter à Paul de la part de l'Église, il l'a accompagné de son service. Ce n'est pas juste donné, abandonné. Il l'a accompagné de son service. Et Epaphrodite était tellement motivé qu'il a peut-être dépassé ses limites. Ou est-ce que c'est un virus qui est à Rome qui l'a atteint? Nous ne le savons. Mais sa maladie a affecté les Philippiens et Paul, qui appréciaient son service. Or Dieu ne demande pas que nous dépassions nos limites, mais il nous demande de nous donner entièrement. Comme Christ l'a fait. Comme Christ l'a fait, on l'a vu au début du chapitre 2. Et Épaphrodite est prêt à mourir pour l'œuvre de Christ. Verset 30. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été prêt de mourir, ayant exposé sa vie, afin de suppléer à l'absence de votre service pour moi. Et Paul renvoie Épaphrodite aux Philippiens, non pas pour être encouragé lui-même, c'est une perte pour lui en fait qu'Épaphrodite reparte, mais afin que les Philippiens soient réjouis de le revoir en bonne santé. Et il donne quelques recommandations pour comment il devait recevoir Épaphrodite. Au verset 29, il est dit « Recevez-le dans le Seigneur ». C'est un serviteur du Seigneur, un fils de roi, un héritier qui vient, recevez-le comme tel, avec une joie entière. Quand il rentre à Philippe, il ne faut pas juste « Voilà, bon, tchobon, c'est bien allé, bonne journée ». Mais non, mais je me réjouis de te voir. Raconte-nous comment c'est à Rome, etc. On a de la joie à se revoir. Et dernièrement, honorez-le, hein, en l'estimant, en étant reconnaissant envers Épaphrodite lui-même, qui a rendu ce service pour l'Église. Et Paul termine sa recommandation, début du chapitre 3, en disant, réjouissez-vous dans le Seigneur, non pas dans Paul, ou dans Timothée, ou dans Épaphrodite, ou dans l'Église, non, dans le Seigneur. C'est lui la source, la raison de toute vraie réjouissance, car tout vient de lui. Nous arrivons à la conclusion de ce message qui portait sur les deux exemples de vie pour Christ. Voulons-nous être des modèles fidèles et engagés pour Dieu? Paul dira à Timothée quelque temps plus tard, et Dieu nous le dit encore aujourd'hui dans 1 Timothée 4:12, « Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. » Est-ce que tu es un Timothée consacré qui partage les soucis de l'Église? Est-ce que tu es un Épaphrodite qui apporte une aide pratique et se donne dans son service, étant prêt à y mettre toute son énergie? À la suite de ces exemples, cherchons à imiter le modèle de Christ, avec les dons qu'il nous a donnés. Ah, la pire des choses, c'est essayer de vivre avec des dons qu'on n'a pas. Dieu ne nous demande jamais ça. Nous devons mettre les dons qu'il nous a donnés, pas ceux qu'on n'a pas. Donc, à la suite de ces exemples, cherchons à imiter le modèle de Christ avec les dons qu'il nous a donnés. Sachons estimer ceux que Dieu a placés autour de nous. Cherchons la gloire de notre souverain. Et pour tout cela, eh bien, nous allons nous reposer sur l'œuvre de Christ. Qui ici peut dire, moi, je suis un modèle sans problème? Ben moi pas. Par contre, je peux dire, oui, je veux suivre mon modèle, Jésus-Christ. Et à sa suite, eh bien, je souhaite que ma vie puisse être utile dans sa main pour encourager beaucoup, comme toute l'Église aussi. Et que Dieu nous fasse la grâce de pouvoir dire un jour, comme l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens, que le témoignage de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel est connu comme étant une Église qui suit le modèle de Jésus-Christ. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous sommes reconnaissants parce que tu ne nous demandes pas de construire sur rien du tout. C'est toi le Créateur ex nihilo. Nous ne sommes pas appelés à faire des exploits. Nous sommes appelés à suivre des modèles. Celui de Christ. Mais nous te remercions parce que tu nous donnes aussi bien des modèles autour de nous qui nous encouragent, qui nous stimulent dans différents domaines. C'est un bienfait. Et j'aimerais te remercier parce que chacun ici peut être un modèle pour d'autres aussi. Et j'aimerais te remercier pour tout ce que tu as déjà permis jusqu'ici. Merci pour ceux qui ont été des modèles dans différents domaines, dans les domaines de la foi. Je te prie, Seigneur, pour les fois où nous ne sommes pas des modèles. J'aimerais te demander pardon. Te prier, Seigneur, de nous aider dans ces moments-là à reconnaître que nous ne l'étions pas, à nous en repentir. Parce que toi, tu es un Dieu qui pardonne, tu es un Dieu qui rétablit. Et j'aimerais te remercier parce que tu es celui qui nous donne la vie. La vie en abondance. Et je te remercie parce que quand tu nous demandes d'avoir la même pensée que Jésus-Christ, de chercher les intérêts des autres avant même les nôtres, eh bien ce n'est pas des choses qui sont dites comme ça en l'air, c'est avec des exemples concrets comme Timothée et Epaphrodite, que l'apôtre Paul a si bien connu. Ce sont des vraies personnes. Merci parce que tu agis vraiment, ici-bas, sur cette terre, dans nos vies. Sois loué et béni dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.